Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mal vous fasse. Je pense, donc je suis, cogito ergo sum, c'est peut-être la phrase la plus célèbre de l'histoire de la philosophie. Son auteur, Descartes, peut-il nous aider à y voir plus clair en ces temps difficiles? Peut-il nous aider à bien mener notre vie, à mieux comprendre nos semblables, le monde qui nous entoure et notre société? Une idée reçue voudrait que Descartes ne soit pas un philosophe du quotidien. Le dernier volet de ses méditations métaphysiques montre le contraire. Nous verrons cet après-midi ce que veut dire vivre en cartésien, ce qui n'a rien à voir avec une forme de scientisme buté, nous dira l'une de nos invitées. Descartes qui célébrait le plaisir des sens et le repos de l'esprit plutôt que l'exercice pur de la raison. Descartes dont la vie ressemblait à un roman de cap et d'épée et qui nous invitait à ne jamais se mettre en situation de ne pas user de sa volonté. Bref, comment devenir vraiment cartésien loin des idées reçues? Mes complices cet après-midi, Thibaut de Saint-Maurice, Éric Libiot et Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour Ali Rébéi.
Professeur de philosophie, chercheur au CNRS, écrivain, chroniqueur au Monde des Livres. Vous dirigez la belle collection Le Monde de la philosophie, disponible en kiosque. Racontez-nous cette collection en quelques mots.
Eh bien, c'est une trentaine de volumes intitulés « Le monde de la philosophie » et chaque volume regroupe plusieurs œuvres, des textes intégraux d'un grand philosophe. Ça, on a commencé par Aristote, puis Rousseau, Pascal, Nietzsche, Spinoza, Marx, Machiavel, Tocqueville, les stoïciens, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. L'important, c'est qu'il s'agit de mettre à disposition pour quelques euros par volume, de tous ceux qui le veulent, des textes à la fois intégraux, fondamentaux et si possible les plus accessibles, avec l'idée, ce sont les textes de la collection GF, Garnier-Flammarion, des traductions récentes, parce que quand il s'agit évidemment de Platon ou de Nietzsche, savoir quel est l'état de la traduction, ça importe, c'est donc les plus récentes traductions, et l'idée, c'est que rien ne remplace la lecture directe des philosophes par chacun. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des gens qui parlent une langue que personne ne comprend. J'ai choisi, chez chacun, les œuvres les plus fondamentales dans lesquelles il faut faire, après une introduction bien sûr, mais l'effort d'entrer soi-même. Quand il s'agit de visiter un pays, vous vous contentez pas de lire le guide ou la brochure. Vous comprenez, c'est-à-dire c'est des descriptions de seconde main. Il faut y aller. Et bien sûr, peut-être il y a un moment où on comprend pas tout. Mais quand vous allez au Cambodge ou en Afrique, vous comprenez pas tout toujours. Simplement, vous avez une impression personnelle, un chemin qui est le vôtre. Et c'est ça. Je crois qu'il est important parce que, je vais faire court, mais je termine, il y a trois façons, il me semble, de lire les philosophes. Et cette bibliothèque idéale, elle peut s'aborder donc de selon ces trois manières. La première, c'est comme du patrimoine. C'est-à-dire, c'est des grandes œuvres, et puis on va lire des philosophes comme on va au musée, comme on visite l'Acropole, on va lire Platon, ou comme on va au Louvre, on va lire Descartes. C'est utile, c'est très bien, c'est les grands monuments de l'esprit humain, mais cette célébration, cette commémoration culturelle, je crois que elle peut aussi laisser place à une autre manière, qui est lire par soi-même pour réagir, c'est-à-dire se dire à quoi ça me sert. Est-ce que je pense ça? Est-ce que ça me choque? Est-ce que lire quelque chose que je n'ai jamais pensé, ça me déstabilise positivement? Au contraire, si ça conforte quelque chose que je pense, ça renforce ma propre conviction, mais ça me donne de nouveaux arguments. Bref, on peut lire les philosophes, je crois, pour sa propre réflexion, éventuellement pour la conduite de sa vie. Et la troisième façon, et Descartes nous y sert, je crois, aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre le monde où nous sommes. Prendre dans ces gens qui ont vécu alors qu'il n'y avait pas de TGV ni d'Internet, des outils qui nous permettent de comprendre nos questions à nous, celles du réchauffement climatique, de la Covid, de la transition écologique. Alors que, bien évidemment, ils n'ont pas connu ces questions. Mais Descartes, sous Louis XIII, il a encore, je crois, on va le voir, des choses à nous dire.
Bonjour.
C'est éternel et c'est actuel.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebéhi.
Maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Paris, vous avez notamment publié un Que sais-je consacré à Descartes. Bonjour Denis Cambouchner.
Bonjour Ali.
Professeur émérite d'histoire de la philosophie moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, grand spécialiste de Descartes. Vous avez notamment publié aux belles lettres « Descartes n'a pas dit ». Laurence de Villers, comment présenteriez-vous Descartes à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ? Descartes, né en Touraine en 1596 et mort en 1650 à Stockholm, au pays des ours et des glaces, comme il l'écrivait.
En deux mots, je vois que vous n'avez pas changé, vous posez toujours les questions les plus faciles. En deux mots, Descartes. ce qui est frappant, et ça va dans le sens de ce que vient dire Roger Paul Droit, c'est que Descartes, c'est celui qu'on n'attend pas. En réalité, et c'est ce qu'a montré Denis Cambouchner dans son livre, Descartes, c'est pas celui qu'on croit. C'est le meilleur des maîtres alors qu'il n'a pas été professeur de philosophie. C'est le plus néerlandais des Français, alors qu'il dit quelque chose de très français. C'est celui de la méthode et qui ne cesse d'énoncer des paradoxes. C'est celui qu'on croit le fondateur d'une sorte de solipsisme, alors que son cogito est complètement habité par d'autres. C'est celui qu'on croit cet horrible... introducteur en Occident du dualisme âme et corps, alors qu'il ne cesse de dire qu'ils ne font qu'un. Donc voilà, Descartes, c'est il faut s'attendre quand on le lit, quand on fait absolument cet effort indispensable de le lire soi-même, de se dire que Descartes, ce ne sont pas les cartésiens. En fait, Descartes est contre tout les cartésianismes. Il est à la fois au-delà et ailleurs de ce qu'on a dit de lui.
Denis Cambouchner.
Oui, Descartes a, il faut bien le reconnaître, mauvaise réputation chez nous. C'est une chose extraordinaire. Tout le monde sait que c'est le plus grand penseur français de tous les siècles. D'une certaine manière, son œuvre domine les siècles qui suivront. Pendant trois siècles, au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, sa gloire est considérable, avec des périodes évidemment où il est plus ou moins loué et où on fait plus ou moins son éloge dans les pouvoirs. Mais enfin, par exemple, la Troisième République, en ses débuts, a été extrêmement cartésienne, et ça jusqu'en 1937, année du troisième centenaire du discours de la méthode, célébré avec faste. Et chez nous, c'est un peu l'empêcheur de quoi ? C'est le donneur de leçons, c'est celui dont on a tout appris d'avance à l'école, et de toute façon ça se réduit à peu de choses, et c'est, comme l'indique Laurence de Villers, celui qui a dit des choses qu'il faut pas dire, par exemple que l'esprit humain est une substance distincte du corps, qui peut exister sans lui, que les animaux ne pensent pas, et même ne sentent pas, à proprement parler, et que nous devons devenir maître et possesseur de la nature. Or, sur tous ces points, évidemment, une lecture attentive permet d'établir qu'il n'a jamais dit exactement ce qu'on lui fait dire couramment, et que son rationalisme, s'il faut prononcer le mot, qui est légitime, évidemment, son rationalisme est un rationalisme ouvert.
Laurence de Villers, contrairement à une idée reçue, la vie de Descartes ressemblait à un roman de KPDP, et les circonstances de sa mort et de son inhumation furent assez rocambolesques.
Mais oui, parce qu'on imagine, Descartes, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Hein, il est à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de lui. Donc on s'imagine le philosophe dans sa tour d'ivoire. Et avant de s'enfermer dans une tour d'ivoire, en l'occurrence une pièce avec un poêle, donc une pièce chauffée où il a pu avoir cette inspiration grandiose de « Je suis, j'existe », il a mené une vie de soldat. Il a d'abord écrit sur un traité d'escrime. Il s'est intéressé à la musique. politique. Il a été l'égérie de princesse, en exil ou au pouvoir. On imagine qu'il s'est battu en duel pour une histoire d'amour. Il a bataillé sur un bateau contre des mariniers qui voulaient le voler. Enfin, donc, et puis moi, ce que j'aime beaucoup, Descartes a conscience de ce qu'il doit faire. Peut-être qu'il y a là quelque chose de la façon dont certains grands hommes français se pensent, et c'est pas une façon hegelienne, parce qu'il y a de ça aussi, je crois, chez De Gaulle. Descartes avait conscience de ce qu'il devait faire, et il avait une astuce que je trouve très touchante et très utile. Il laissait ses malles dans un endroit et il déménageait dans un autre pour pouvoir être tranquille, et il dit: ma famille, mes amis ne cessent de me détourner de mon grand projet. Donc je trouve que c'est un Descartes à la fois qui s'isole et qui a en même temps une vie qui n'est absolument pas celle du penseur enfermé sur lui-même, qui dirait je suis, j'existe. Il dit je suis, j'existe parce qu'il sait ce que ça veut dire d'une certaine façon.
Et Laurence de Villers, une idée reçue voudrait que Descartes ne soit pas un philosophe du quotidien. La dernière méditation de Descartes, eh bien c'est une méditation sur la vie la plus quotidienne.
Ah ben, alors, avant la dernière méditation, Ali, si je puis me permettre, toutes les méditations, c'est une philosophie à faire au quotidien. Enfin, il y en a 6, c'est scandé, c'est l'idée que la philosophie est un chemin, je crois que Roger Paul Droit a employé le terme, c'est un chemin qui nous transforme. On n'est pas le même avant d'avoir fait de la philosophie, et après, on n'est pas le même avant d'avoir lu Descartes, et après. Donc, il n'y a pas plus quotidien, il n'y a pas plus temporalisé que l'exposition de la philosophie et la façon de faire de la philosophie chez Descartes. Et puis vous disiez, Ali a très juste raison, la dernière méditation, elle commence par quoi ? Elle commence par la douleur. La dernière méditation s'ouvre sur un cri qui est « aïe, ça fait mal », et pourquoi je pourrais éprouver la douleur si je ne suis qu'un pur esprit ? Donc c'est la chose la plus quotidienne, c'est pourquoi je ressens de la douleur si je ne suis qu'une chose qui pense. Et toutes les méditations sont scandées par des images du quotidien. Enfin, on connaît la première méditation, avant ce « mais quoi, ce sont des fous ?» Descartes dit, il décrit là où il est. Je suis dans mon poêle, donc dans ma salle chauffée, avec mon manteau, je suis en train d'écrire. C'est une injonction au quotidien, en réalité, la philosophie cartésienne, parce que pourquoi ? Pour une question cruciale, si je suis parce que je pense, si ce que je suis, c'est une chose qui est capable de penser, il dit une chose parce que c'est tellement nouveau ce qu'il est en train de dire qu'il n'a pas le vocabulaire, eh bien, si je ne pense pas, je ne suis plus. Donc, il peut se faire que si je ne pense pas au quotidien, ici et maintenant, ma vie s'efface. Ma vie s'effondre d'une certaine façon. Donc, il y a un impératif de la pensée au quotidien.
Denis Cambouchner.
Oui, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai, dans les méditations, au début comme à la fin, il y a des références au cadre quotidien. Au milieu, c'est un peu plus abstrait tout de même. Mais c'est vrai que pour Descartes, la philosophie est une pratique quotidienne, qu'elle implique une certaine discipline, alors sur des sujets qui peuvent varier. C'est pas pour rien que Descartes appelle son livre majeur en philosophie les méditations, méditation de philosophie première en latin, méditation métaphysique dans l'édition française. C'est un terme qui est emprunté à la littérature spirituelle, à des traditions d'ailleurs modernes, principalement modernes, mais qui remontent déjà à Saint-Augustin en matière religieuse. Et c'est transposé évidemment à l'exercice philosophique. Mais ça doit être quotidien, Descartes philosophe tous les jours. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il ne s'intéresse pas qu'à des sujets purement abstrait. Descartes accorde un intérêt égal à ce qu'il appelle la recherche de la vérité, sous-entendu dans les sciences, la recherche des vérités scientifiques qui inclut pour lui les vérités philosophiques premières, celles de la métaphysique. Il accorde un intérêt égal à cela et à ce qu'il appelle la conduite de la vie. Comment dois-je me conduire ici et maintenant par rapport à tel et tel problème qui se pose à moi? Et il y a toute la partie morale de son œuvre dont nous allons sans doute reparler, qui concerne ce, justement la manière de gérer, on dirait aujourd'hui, toutes ces situations.
Roger Paul Droit, vous écrivez que Descartes est un philosophe généreux. C'est parce qu'il permet à l'autre d'avancer sur le chemin qui le conduira par ses propres forces à des connaissances vraies.
Oui, absolument. La générosité, c'est un des grands mots de Descartes, je crois qu'on en parlera, mais indépendamment du sens particulier qu'il donne à ce terme, il y a quelque chose de généreux chez lui qui est le partage des vérités. L'idée même de bon sens, vous savez la fameuse phrase du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Le bon sens ou la raison, c'est la faculté de distinguer le vrai du faux. Et ce qu'il dit, c'est égal en chacun. Autrement dit, il y a des gens qui ont plus d'imagination, il y en a d'autres qui ont plus de volonté, peut-être, de fermeté dans les résolutions, enfin peu importe, il y a des indécis et des téméraires. Mais en ce qui concerne la logique, la recherche de la vérité, on est tous équipés de la même manière. Alors c'est fou, d'une certaine manière, cet énoncé d'une égalité démocratique de la raison absolue, universelle, parce qu'on dira, il y a des gens... ils savent pas raisonner, et d'autres, ils y arrivent. Il y a des savants, il y a des nuls. Eh bien, la générosité de Descartes, c'est de dire, il y a chez chacun, absolument, chacun d'entre nous, quel que soit son âge, sa culture, son milieu social, il y a cette capacité de distinguer le vrai du faux. Et après, la différence, elle vient du mode d'emploi de l'outil. On a tous le même outil, il faut apprendre à s'en servir. Et pour apprendre à s'en servir, je crois que Descartes, c'est un maître extraordinaire, parce que c'est d'une certaine façon, on l'a un peu oublié, c'est le père des Lumières, à sa manière. Il écrit en français, pour pas faire de latin, il s'adresse dans un vocabulaire aussi simple à tout le monde, il dit « j'ai pas besoin que les gens aient de l'instruction pour me comprendre ». Et il y a cette sorte d'universalité de la capacité à chercher du vrai qui est quelque chose de fondamental.
Tiens, Mina nous demande ce que veut vraiment dire être cartésien. Laurence de Villers, est-ce que ça veut dire être un scientiste buté, arrimé à la seule certitude du 2 plus 2 égale 4, en rejetant comme irrationnel tout ce que la science ne démontre pas? Je cite votre que sais-je, Laurence.
Encore une question facile, merci Ali. Être cartésien, alors évidemment on a plaqué sur Descartes des étiquettes parce que la pensée a horreur de l'inconnu, donc du vide, donc elle plaque des étiquettes croyant ainsi mieux posséder les choses. Alors le scientisme, non, on a confondu Descartes avec l'idée que n'était vrai que les vérités de la science. Or Descartes montre que les certitudes métaphysiques, Dieu existe, j'ai une âme, je suis, je pense, je suis libre, sont des vérités qui ont plus de certitudes, donc ont un coefficient d'assurance, d'une certaine façon, beaucoup plus élevé que celui des sciences. Le dualisme, c'est faux aussi, puisque même si l'esprit et le corps sont deux substances distinctes, il faut comprendre qu'elles sont aussi unies en l'homme. Donc Descartes, encore une fois, contredit tout ce qu'on a pu dire. En revanche, si vraiment je dois vous répondre en deux mots, et alors là je vais parler de mon expérience aussi de ma rencontre avec Descartes qui ne m'a plus lâchée. Je dois dire que j'ai eu aussi Denis Kambouchner comme professeur, donc peut-être que ça aide. C'est quand même le grand maître de la certitude, de la clarté et de la distinction. Moi, ce qui m'a frappé dès ma première lecture de Descartes, c'est que les chemins de la philosophie avec Descartes, ils ne mènent pas nulle part. Vous savez, on entend souvent la philosophie, c'est l'art des questions qui ne trouvent pas de réponse. Ce qui compte, c'est le chemin. Ben non, ce qui compte chez Descartes, c'est d'arriver. Et je crois que c'est Peggy qui l'a le mieux dit lorsqu'il dit que la philosophie cartésienne, c'est la philosophie où arriver quelque part, à un prix unique, que l'erreur, c'est d'errer. Et moi, je dirais que Descartes a été un maître pour moi de cette clarté et de cette distinction, c'est-à-dire de cette exigence intellectuelle qui fait qu'on admet pour vrai que des vérités qu'on a examinées et que la certitude arrivée quelque part est le plus grand prix dans la vie. Donc pour moi, Descartes, c'est vraiment le philosophe qui donne des chemins, qui arrive quelque part. Ça a été déterminant pour ma culture philosophique.
Et vous, Denis Kambouchner, pourquoi Descartes a été un maître pour vous tout au long de votre vie?
Il y a fort longtemps, quand je préparais les concours de l'enseignement, comme ça arrive souvent, c'est un amour né d'une étude prescrite. C'est-à-dire, Descartes était au programme. Et puis je me suis mis à lire Descartes pour de bon. Pour de bon. Et avec une passion croissante, parce que précisément j'ai trouvé un peu autre chose que ce qu'on enseignait d'habitude. J'avais eu moi-même de très bons maîtres, mais j'y trouvais encore autre chose. Et c'est une pensée d'une extraordinaire précision. Alors, clair et distinct, le clair et distinct, c'est pas simplement ce que vous trouvez comme ça devant vous et vous dites, bon, ça fait l'affaire. Non, le clair et distinct, c'est ce à quoi vous arrivez à force d'interrogation, de réflexion. C'est l'objet de tout un travail de la pensée. Quand vous vous êtes posé toutes les questions qu'il faut, eh bien, vous avez la chose. Alors, il faut ajouter aussi que, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, la distinction entre la recherche de la vérité dans les sciences et puis la conduite de la vie, il n'y a pas de la clarté et de la distinction partout. C'est-à-dire, dans la vie, vous êtes obligé d'agir en situation d'incertitude, éventuellement de vous en remettre aux opinions ou aux déclarations d'autres personnes, évidemment. Et donc, tout ça est assez modulé. Mais c'est vrai qu'il y a cette grande entreprise intellectuelle qui a été mise au point avec un soin extrême, après des années d'apprentissage que Descartes décrit lui-même dans le discours de la méthode, et qui est sans exemple par l'achèvement. C'est une entreprise philosophique. Bon, il est pas arrivé jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, puisque, comme vous savez, il a été invité par la reine Christine de Suède à la cour de Stockholm, et ça lui a pas porté bonheur. Mais tout ce qu'il a publié est parfaitement achevé.
Guillemette Audicino.
Il y a quelque chose qui me frappe. Bon, alors d'abord, Descartes est nettement plus sexy que ce que je pensais, y compris donc dans sa vie avant de cogiter. Mais j'entends mousquetaire, oui. J'entends histoire d'amour, j'entends générosité. Donc, est-ce que aussi le secret de cette révolution en fait de pensée, c'est que il n'a pas fait d'études de philosophie, qu'il arrive que ce n'est pas un mandarin. Il arrive en fait de sa propre vie et c'est cette réflexion là, comme s'il arrivait, disons, j'allais dire de la vie civile. Quoi. Il arrive de la vie civile et il se met à réfléchir en dehors des canons qui l'ont précédé. Quoi.
Alors, il a fait des études de philosophie, bien sûr.
Mais il n'a pas été professeur.
C'est-à-dire qu'il est allé, comme il l'indiquait au début du discours de la méthode, dans l'une des meilleures écoles d'Europe, c'est-à-dire le collège jésuite de La Flèche, entre Le Mans et Angers, qui venait d'être ouvert quelques années auparavant. Et les jésuites, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et encore au début du XVIIe, avaient mis au point un système d'enseignement extraordinairement perfectionné. L'institution des collèges de jésuites dans l'Europe catholique, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'éducation en Europe. Et donc Descartes dit, j'ai été dans une des meilleures écoles d'Europe, il ne ment pas, il rend hommage régulièrement à ses maîtres, il a fait 3 ans de philosophie, logique, morale, philosophie de la nature, métaphysique. Il a fait 3 ans de philosophie, mais ensuite, évidemment, il quitte les études universitaires. Enfin, il s'inscrit à Poitiers, mais en droit. Il passe sa licence de droit un peu légèrement. Mais il est tout à fait cultivé. Il passait son temps à lire les livres de la philosophie qu'on appelle scolastique. Et il est tout à fait informé, très 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 au point, techniquement aussi, en tant que philosophe. Donc c'est pas du tout un esprit solitaire.
Alexia Rivière et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé, à la réalisation Stéphanie Texier, et je vous propose d'écouter les Rolling Stones. Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash.
Vous avez fait des études de quoi ?
Philosophie. Grand bien vous fasse.
Ah oui, excellent, il y a de l'oseille à se faire.
C'est ça. Mais jusqu'ici, c'est du bénévolat.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on se demande comment le philosophe Descartes peut nous aider dans la vie quotidienne en compagnie d'autres philosophes, Laurence de Villers, Denis Cambouchner et Roger Paul Droit.
Si en ce moment, vous êtes en train de rêver, qui est-ce qui rêve ? Axel, si tu rêves, qui est-ce qui rêve ?
Moi.
C'est toi ? Et si tu n'étais rien, est-ce que tu pourrais rêver ? Non ? Alors de quoi tu peux être sûr ?
Je ne sais pas.
Raphaël.
Ce que tu peux être sûr, c'est que si tu fais jamais de rêve, bah, tu sais que t'es pas là.
Et toi, tu fais des rêves ?
Bah oui.
Alors de quoi tu peux être sûr ?
Bah, que je suis pas une toute petite boule comme ça.
Tu peux être sûr que t'es pas une toute petite boule comme ça qui existe même pas, c'est ça ?
Ouais.
Tu peux être sûr que t'existes ?
Oui.
Mmh ? Et bien Descartes, il s'est dit exactement ça. Il s'est dit, même si je rêve, c'est bien moi qui rêve. Donc moi qui pense à tout ça, forcément j'existe.
Un extrait de l'émission Les Maternelles en 2013. Alors venons-en à la plus célèbre phrase de l'histoire de la philosophie occidentale. Je pense donc je suis. Qui peut nous expliquer le sens de cette phrase que j'ai vue parfois imprimée sur des t-shirts ? Laurence de Villers, je cite un Descartes, « Je suis, j'existe, est nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. »
Alors, c'est, vous m'interrogez sur le fameux cogito. Rien que ça. Bon.
Voilà.
Alors, le cogito. Alors, d'abord, vous aviez raison de dire, Ali, en introduction de l'émission, que c'est sans doute la phrase la plus célèbre de la philosophie. Donc, comment on écrit une phrase célèbre en philosophie? Moi, j'ai toujours pas percé le mystère, mais Descartes l'a fait. Ensuite, ce qui est frappant, c'est que cette phrase, d'une certaine façon, il l'a pas écrite. Si on veut vraiment parler de cogito dans les méditations, c'est sum existo. Et avec Denis Cambouchner, on s'interrogeait sur cette phrase, qui n'en est pas une même. Et puis ça donnerait en français je suis, j'existe. Donc il n'a pas écrit d'une certaine façon, je pense donc je suis. Le cogito ergo sum, on le trouve dans la traduction latine du discours de la méthode. Donc déjà, vous voyez, quand vous êtes célèbre, c'est d'abord sur un malentendu, d'une certaine façon, puisqu'il n'a pas écrit, je pense, donc je suis. En tout cas, quand il l'a écrit, il l'a pas conservé parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi ? Il y avait ce donc. Et on avait l'impression que le fameux cogito, c'est-à-dire la rencontre de moi-même avec ma propre existence, était le fruit d'un raisonnement, et ça ne plaisait pas à Descartes. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que le je suis, j'existe à la force d'un événement, d'une rencontre et d'une certitude. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se plier à la matière un peu morte, un peu figée du raisonnement, du syllogisme, hein, pour penser il faut être, donc je pense, donc or je pense, donc je suis. Descartes refuse, on a dit qu'il avait été étudiant dans un des plus renommés collèges de l'Europe, mais en même temps il a rejeté cet enseignement-là, c'est-à-dire cette philosophie figée en une matière syllogistique un peu répétitive et pas vivante, enfin du mécanique plaqué sur du vivant. Donc il refuse et il dit ce fait qui s'impose à moi d'une certaine façon et qui me donne à moi-même, qui est je suis, j'existe. Et la question qu'on se posait avec Denis Cambouchner dans la rue, c'est pourquoi il ajoute j'existe alors qu'il dit je suis, ça suffit quand même. Je suis, c'est-à-dire que par la pensée, je saisis presque, non pas presque, je saisis réellement de façon tangible mon existence. Je me saisis moi-même. Et pourquoi il ajoute j'existe? Comme si il voulait donner du poids à cet être. Je suis, j'existe. Il y a une force. Et en même temps, je disais, c'est faux de dire qu'il n'a pas voulu ce donc, je pense, donc je suis. Parce que la force du cartésianisme, c'est aussi celle de la déduction. Je crois que l'intelligence, c'est Descartes. Chez Descartes, c'est la force déductive. C'est-à-dire avoir une première vérité et puis avoir cette puissance d'en déduire d'autres. Eh bien, la première vérité de je suis en train de penser, exactement comme dans l'extrait, dans une classe que vous avez m'avait fait passer. Je suis en train de penser ou de rêver ou d'aimer ou de sentir ou d'imaginer. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Et ben c'est pas quelque chose qui m'est extérieur, c'est quelque chose qui me donne à moi-même. Et par la pensée, ce qu'en classe de terminale on peut appeler la conscience, j'ai conscience de penser, mais par la pensée, je suis. Et bien ce donc, je pense, donc je suis, il est pas à bannir si radicalement. C'est quand même la force d'une déduction qui pose ma pensée dans la réalité, dans l'être. Hein. C'est pas seulement un raisonnement. Il y a une naissance. Je suis donné à moi-même. Ça y est, dans la réalité, je sais que je suis par la force de la pensée.
Denis Cambouchner.
Alors, je vais pas prolonger la conversation avec Laurence dans la rue. Je nuancerai juste une chose. C'est vrai qu'on trouve pas le « je pense donc je suis » au cœur de l'œuvre majeure de Descartes en matière métaphysique, les méditations métaphysiques. Malgré ça, il l'utilise quand même, l'expression. Elle figure dans le discours de la méthode. Elle a un caractère un petit peu dérivé par rapport à ce qui se passe dans les méditations. C'est-à-dire, à mon sens, c'est la manière dont Descartes résume l'opération intellectuelle qu'il accomplit dans la deuxième méditation, là où il trouve la première vérité absolument indubitable. Pourquoi c'est indubitable ? Parce que si je commence à douter de tout, si j'imagine qu'un dieu me trompe, ou du moins qu'un malin génie, un être très puissant me trompe dans tout ce qui pourrait donner lieu au moindre doute, eh bien, s'il me trompe, je suis. Donc, il est certain que je suis. Et y a naturellement cette vérité en soi n'a qu'un intérêt limité si on n'en tire pas un certain nombre de conséquences. C'est une platitude. Mais enfin, il faut tirer les conséquences.
Roger Poldroit, Pierre nous demande si Descartes peut nous aider à lutter contre les infox, les fake news, et plus généralement le complotisme, grâce à sa méthode.
Alors, je pense que Denis Cambouchner a écrit récemment sur ces questions, mais je vais essayer quand même de répondre avant lui, très brièvement. C'est l'utilité de Descartes dans ce domaine-là. C'est justement l'exigence d'évidence, de clarté, de certitude et la confiance dans le raisonnement, dans la raison. Alors, on peut avoir l'impression que les complotistes seraient cartésiens parce qu'ils doutent. Mmh. Ah, on va pas nous bourrer le mou, on se laisse pas faire, on met en doute ce qui peut paraître le plus évident. Et ça, il y a quelque chose qui ressemble à la démarche de Descartes, mettant en cause des évidences habituelles à la recherche d'une vérité. Mais, comme on le rappelait tout à l'heure, l'important, c'est le résultat. Il y a des vérités, on peut les trouver par la raison, et en dehors de la raison, Descartes fait confiance à ceux qui savent, à ceux qui ont plus d'expérience, reconnaît qu'il y a des gens à qui on doit et on peut faire confiance, que ce soit des médecins, des savants, des politiques, des ingénieurs, des gens expérimentés. Donc il y a ce double mouvement, si vous voulez, de recherche par soi-même de la vérité. Et puis, pour la vie pratique, très souvent, vous faites confiance dans le fait que, comme disait Wittgenstein, que le Japon existe, même si vous y êtes pas allé, quoi. Vous voyez, l'idée qu'il y aurait un complot général, universel, pour faire croire qu'il y ait des Japonais, alors que c'est juste un fake, c'est ce genre de choses qui finalement est une raison devenue folle et une sorte de doute pathologique. Et parce qu'il y a des choses qui font peur, et la Covid ça fait peur, et la pandémie ça fait peur, et le cours du monde peut faire peur, alors on invente au contraire de fausses certitudes. Et je crois que l'utilité de Descartes, c'est justement d'être dans cet équilibre entre recherche de la raison et puis confiance pratique.
Denis Cambouchner, en quelques mots.
Oui, il y a trois choses. Premièrement, la discipline cartésienne, ça consiste à douter de ce qu'on pense soi-même. C'est-à-dire à se demander est-ce que j'ai bien raison de penser ce que j'incline à penser. Deuxièmement, une partie de cette discipline, ça consiste à déterminer quelles questions je suis capable de résoudre par moi-même et sur quelles questions, au contraire, je dois m'en remettre à d'autres. Et donc, il y a une affaire de compétence reconnue à soi-même qui est très importante. Là où, bon, quand on s'improvise spécialiste et on fait comme si on était plus expert que les experts, il y a quelque chose qui cloche. Troisièmement, l'affaire du grand complot. Alors, Descartes construit une figure du malin génie qui me trompe, mais c'est ce que le grand historien de la philosophie Henri Gouillet appelait une hypothèse méthodologique. L'affaire du grand complot, non, ça n'a pas la moindre plausibilité. Et du reste, on peut voir que ceux qui soutiennent cette théorie se contredisent quelque part, ou en de nombreux points, forcément.
Il est là, il existe, Thibaut de Saint-Maurice. C'est dans sa chronique.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Et dans votre philoscopie, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous demandez pourquoi les sportifs nous font rêver.
Ben oui, Ali, alors laissons quelques minutes Descartes, hein, ce grand champion de la philosophie, mais pour nous intéresser aux grands champions tout court, hein, ceux du sport. Alors le sport de haut niveau est devenu en quelques dizaines d'années une magnifique fabrique de héros. Leur ascension, leurs exploits, leurs records nous font vibrer, rêver, et puis finalement, ben voilà, rendre nos vies plus heureuses. Les dieux du stade sont devenus de véritables dieux des écrans, stars médiatiques, ambassadeurs publicitaires, entrepreneurs d'eux-mêmes et parfois aussi de toute une véritable économie dérivée. Mais le plus étrange, c'est que l'on pardonne presque tout à ces grands champions et que leurs échecs ou leurs erreurs n'effacent pas le rêve et l'attachement qu'ils font naître chez les spectateurs.
Quelles sont donc les raisons d'un tel enthousiasme, Thibaut ?
Eh bien, il me semble qu'en bon cartésien, on peut essayer d'analyser une chaîne de trois raisons pour expliquer ce phénomène. D'abord, première raison, le champion est effectivement consacré par ses exploits, c'est évident, mais ça signifie qu'il est celui qui rend possible ce que l'on croyait impossible. Qualifier son équipe, gagner une compétition, battre un record. Et cet exploit, il le réalise au prix d'un long travail d'entraînement et d'efforts qui le conduisent au-delà de lui-même, dans une forme de dépassement jusqu'à proposer une meilleure version de lui-même. Et donc, à travers cette meilleure version de lui-même aussi, pour nous, une meilleure version de notre humanité. On peut naître dans une famille pauvre comme Maradona et devenir le plus grand des joueurs de foot. Ensuite, deuxième raison, l'histoire des grands champions, elle valide le mythe libéral de la libre concurrence et du meilleur qui gagne à la fin. Les grands champions nous font rêver aussi parce qu'ils incarnent un succès exemplaire, le succès exemplaire des sociétés libérales qui articulent mérite et compétition. Et ils sont à ce titre la preuve d'une certaine justice parce que personne ne trouve à redire quand c'est bien le meilleur qui gagne. Et puis troisième raison, ces hommes ont beau être devenus de grands champions, ils n'en restent pas moins des hommes, marqués par la fragilité d'une condition finalement assez indépassable. Ils sont capables d'exploits, mais restent travaillés par leurs propres démons. La drogue et l'alcool pour Maradona, le désespoir pour Dominici, ou le coup de tête pour Zidane, ou le risque de la blessure pour chacun et pour tous. Ils réunissent en un seul corps des exploits extraordinaires et des fragilités ordinaires. Et c'est ce risque permanent qui rend la victoire d'autant plus belle, et c'est aussi ce qui l'y rend plus proche du lot commun des hommes. Alors bizarrement, donc, je pense que les grands champions sont des héros démocratiques. Et c'est pour ça, je crois, qu'ils nous font rêver. Ils sont les champions d'une égalité des chances à partir de laquelle ils réussissent en livrant la bataille de leurs efforts et de leur travail. Mais surtout, ils témoignent de l'importance de la confiance en soi, dans sa propre voie, qui est aussi son propre chemin, son propre destin, et qui est au fond le fondement de notre égalité les uns avec les autres. Même si, moi, à titre personnel, je suis tout à fait incapable de marquer un but.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. C'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
Emma Peters, interprétée Fou.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et on termine notre émission consacrée à Descartes avec vous, Laurence de Villers. En quelques mots, pourquoi Descartes peut nous aider dans la vie ?
Parce que Descartes, il faut pas en faire une image lisse non plus. Il y a une image très forte dans le discours de la méthode où il dit que vivre, c'est être comme égaré en forêt. Et là où Descartes est utile, c'est que il nous dit que là aussi, même dans l'incertitude et l'égarement, il faut pouvoir dire là aussi je suis. Et donc faire le choix de la ligne droite où je ne manque pas de volonté et je me sors de cette forêt. Donc je pense que c'est une image très très forte d'être égaré en forêt, mais d'avoir cette générosité cartésienne qui fait que là aussi je peux planter mon drapeau sur ces terres hostiles et avancer dans la ligne droite de la volonté.
Roger Paul Droit, en quelques mots.
Eh bien, je crois que sa plus grande actualité, c'est peut-être sa devise « Je m'avance masqué ». vous voyez, puisque en latin ça se dit larvatus prodeo, je m'avance, masqué, larvatus, bon, pour nous ça dit autre chose. Toute plaisanterie mise à part, je crois que c'est quelque chose d'important. Il s'avance masqué, ça veut dire que on a souvent une fausse image de lui, il faut pas hésiter à aller le lire et à retrouver cette générosité de Descartes qui consiste aussi à s'aimer soi-même, à savoir aimer ses passions, ce qu'on est, et c'est parce que on s'aime soi-même qu'on peut être quelqu'un de bien. C'est pas parce que on est quelqu'un de bien qu'on va se dire « Ah, je suis content ». C'est au contraire parce que on a cette acceptation, cette générosité du rapport profond à la vie et à soi. Et Descartes, tout masqué qu'il est, il faut aussi le démasquer.
Denis Kambouchner.
Oui, Roger Paul vient de dire très bien les choses, et je voudrais revenir à ce qu'il disait au début de l'émission. Descartes est un grand génie, c'est un immense génie. Eh bien, fréquenter un grand génie, ça vaut aussi pour autre chose que la philosophie, pour la littérature, la musique, le sport. Ça fait du bien, de toute façon. Bon. Et celui-là, Descartes, il est souvent assez difficile, mais si vous lisez ses textes de morale, bon, vous serez chez vous.
Merci beaucoup, Denis Kambouchner. Guillaume Todesino, vous avez choisi un film qui aurait peut-être plu à Descartes. C'est La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder en 1970.
Allons donc, Watson, vous devez admettre que vous avez une tendance au romanesque. Vous prenez mes simples exercices de logique et les embellissez. Vous vous laissez aller à broder dessus, vous les exagérez.
Ah, je rejette cette accusation.
Mais selon vous, je fais 1m93 quand j'en fais à peine 86. Vous donnez au lecteur la nette impression que je suis misogyne. En réalité, je ne déteste pas les femmes. Je me méfie d'elles, voilà tout. De la provocation dans les yeux et de l'arsenic dans la soupe.
Ce sont toutes ces touches légères qui vous donnent de la couleur.
De la couleur criarde.
Donc nous sommes bien, cher Ali, dans un film, c'est le film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes. Donc c'est un génie, hein, ça c'est élémentaire, mon cher Ali. Billy Wilder est un génie. Et ce film est sans doute l'adaptation de Conan Doyle, à la fois la plus fidèle dans l'essence même de ce qu'était Sherlock Holmes et son rapport avec Holmes et son rapport avec le monde, et en même temps évidemment toujours ce pas de côté, cette insolence que dont Billy Wilder est devenu un maître. Donc Sherlock, normalement, remet de l'ordre dans les choses. Il remet du sens dans les choses. En résolvant des mystères, il nous rassure. Il rend le monde tangible. Alors, chez Billy Wilder, évidemment, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Le monde est toujours un petit peu plus burlesque ou mélancolique que prévu. Alors là, dans ce film absolument exceptionnel, qui d'ailleurs a été... Alors, achetez-le en Blu-ray. Achetez-le dans la collection, voilà, édité par l'Atelier d'Images, parce que c'est un film qui a été charcuté par les producteurs en 1970 à sa sortie, et il y a plein de bonus sur ce DVD, où on voit des scènes inédites, c'est magnifique, mais même dans sa version coupée, dans ce film, mais c'est vraiment une merveille. Alors avec entre autres, la reine Victoria, Holmes qui fait croire à une grande ballerine russe, qui veut un enfant de lui, qu'en fait il est en couple avec Watson. Et il y a une très jolie manière aussi d'éclairer le mystère du monstre du Loch Ness. Et alors peut-être, l'une des choses les plus bouleversantes de l'œuvre de Billy Wilder et de toutes les adaptations de Conan Doyle, ça j'en suis sûre, une histoire d'ombrelle. Mmh. Une ombrelle, son ombre, qui fait du morse, une manière de dire adieu dans un amour platonique. C'est absolument magnifique et ça prouve que finalement, Sherlock, comme Descartes, était nettement plus romantique qu'on ne le pense.
Et c'est quand le personnage interprété par Geneviève Page ouvre et ferme son ombrelle à destination de Sherlock Holmes. Et c'est l'une des plus belles déclarations d'amour.
Oui. À Wiedersehen, elle lui dit. Ouais.
Et d'ailleurs, Denis Cambouchner, vous avez édité Lettres sur l'amour de René Descartes. C'est publié en Mille et une nuits, ça coûte pas cher. Merci beaucoup Denis Cambouchner, Laurence de Villers et Roger Paul-Droit. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques sur l'appli et sur le site France Inter. Lundi, on explore quelques idées reçues sur les régimes.